le magazine des Nations Unies.
Bienvenue sur la fréquence de la paix, c'est le magazine des Nations Unies, au sommaire de cette émission. Qu'est-ce qui bloque le processus de reddition des FDLR au nord et au sud Kivu? La question est revenue à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Explication avec Martin Kobler, chef de la MONUSCO, c'est dans l'actualité de la semaine. Fièvre hémorragique à virus Ebola, la mission onusienne s'engage aux côtés d'autres partenaires du gouvernement pour apporter une réponse à l'épidémie qui sévit depuis plus de deux semaines dans la zone de santé de Boende dans la province de l'Équateur. Le docteur colonel Oumarou Salissou est notre invité. Il nous dira comment la MONUSCO se range dans cette bataille. Enfin, le PNUD a publié les résultats d'une enquête sur la consolidation de la paix en RDC. Quelle est l'incidence de cette enquête dans le processus de paix? Réponse avec une experte en la gouvernance au PNUD dans le décryptage de cette semaine. Et c'est tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue sur nos antennes. La question du désarmement des rebelles rwandais des FDLR est revenue cette semaine au cours de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO. La machine pour parler du processus du désarmement de ces rebelles au nord et au sud Kivu est grippée. Qu'est-ce qui bloque? La réponse dans cet élément proposé par Jean-Pierre Elali Coco.
Le 26 août 2014, les 15 membres permanents du Conseil de sécurité publient un communiqué. Ils demandent au gouvernement congolais de neutraliser les FDLR avec l'appui de la MONUSCO. Deux semaines après, rien n'est fait sur les terrains. Bien plus, leur délocalisation vers la ville de Kisangani n'a connu aucun début d'exécution. La machine est donc grippée et c'est le statu quo. Devant cette situation de blocage, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, ne va pas parler d'eau de la cuillère. Deux raisons, selon lui, bloquent le processus. Et la première, c'est la conception que les FDLR se font de 6 mois, le délai accordé par le chef d'État de la CIRGL. Martin Kobler.
La première raison, voilà, c'était une sorte de misperception de l'offerte de CIRGL et SADC de dire « alors vous avez 6 mois ». Si on dit « alors vous avez 6 mois », la pression militaire stoppe, la pression militaire arrête. Et puis on entre en négociation, on fait la reddition volontaire, on a le temps, jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Et ils ont dit « alors on a 6 mois », alors ça peut être une misperception sur le côté des FDLR de faire rien, et de dire « alors on attend 6 mois, on attend qu'est-ce qui se passe ».
La deuxième raison est politique. Le FDLR attendait et continue d'attendre les garanties d'une ouverture politique à Kigali, ouverture qui leur permettrait de jouer un rôle dans l'arène politique au Rwanda.
La deuxième, ils ont des demandes politiques ici. Ils disent alors on va avancer avec la réduction volontaire si on a une assurance pour la protection des réfugiés Hutu, ici les réfugiés rwandais dans le pays. Ou si on a une entrée au Rwanda pour participer au processus politique.
Pas d'impunité ni d'amnistie pour les auteurs des crimes, a martelé le chef de la MONUSCO. Des poursuites judiciaires sont en cours à Arusha, en Allemagne, contre les FDLR accusés de crimes dans l'est de la RDC. Par ailleurs, concernant la RDC et les FARDC, Martin Kobler s'est dit consterné par la disparition du général Lucien Bauma, commandant de la 8e région militaire. « Vous avez perdu un grand général », a-t-il déclaré avant de se montrer solidaire au peuple congolais dans cette dure épreuve.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
À la recherche d'une paix durable, c'est l'intitulé d'une enquête sur la manière dont la population de l'Est de la RDC perçoit la paix, la sécurité et la justice. Une enquête effectuée dans le cadre d'un projet conjoint PNUD-MONUSCO. Ces résultats ont été présentés mercredi dernier à Kinshasa au siège du PNUD. Pour en savoir plus, suivez cet entretien accordé par Nadine Turki, qui est chargée de la gouvernance au bureau pays du PNUD, à notre confrère Honoré Missenga Kalala.
Madame Nadia Turki, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'assister à la présentation des résultats d'une enquête réalisée dans le cadre du projet collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en RDC, un projet conçu conjointement par le PNUD, votre agence, et la MONUSCO. Est-ce qu'on peut savoir en quoi consiste ce projet?
Okay. Il s'agit d'un partenariat entre le PNUD et la MONUSCO pour réaliser des études de perception sur trois thématiques clés qui sont au centre de nos programmes. Ces thématiques sont la paix, la sécurité et la justice. Donc, nous sommes actuellement à la fin de la première phase. Il y a eu une première série d'enquêtes qui ont été menées au cours du dernier trimestre 2013. Qui ont fait l'objet d'un rapport qui a été présenté sur ces différentes thématiques. Et les enquêtes se sont déroulées sur les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et le district de l'Ituri et ont touché un peu plus de 5000 personnes choisies parmi un échantillon de ces différentes provinces.
Alors, quels sont les objectifs de ce projet?
Les objectifs, d'une part, c'est de disposer d'une base de données valide et consolidée sur ces trois thématiques. L'autre objectif, c'est évidemment d'utiliser ces bases de données pour enrichir et pour améliorer nos interventions sur le terrain et aussi qu'elles constituent un outil de dialogue avec les autorités nationales pour leur faire part des perceptions qui auraient été enregistrées au travers de ces enquêtes et voir de quelle manière on peut apporter des réponses aux préoccupations de la population concernée.
Madame, si je vois l'intitulé du projet, c'est en fait le projet concerne toute la RDC, mais cette enquête n'a été menée que dans l'est de la RDC. Pourquoi ?
L'ambition est effectivement de couvrir toute la RDC. Les financements disponibles ont permis de commencer les opérations sur les trois provinces que j'ai citées, deux provinces donc du Nord Kivu et Sud Kivu et le district de l'Ituri. Mais nous espérons qu'avec le succès de cette première opération, nous pourrons mobiliser des fonds pour élargir l'expérience à l'ensemble du pays.
Venons-en maintenant à l'enquête elle-même. Quelles sont les grandes informations qu'on peut retenir?
Cette enquête a couvert trois thématiques clés qui sont la sécurité, la paix et la justice. Donc, il y a un certain nombre d'enseignements qui ont été tirés, comme la perception des populations sur l'efficacité des services fournis par les services de la justice sur le terrain. La moyenne des réponses qui ont été enregistrées démontre que cette population demeure insatisfaite par rapport à la réponse judiciaire qui est apportée aux thématiques de violence et de répression des conflits dans les communautés qui ont été touchées. Donc cela nous donne des indications par rapport et à la performance du système judiciaire, mais aussi à nos interventions en appui à ce système judiciaire. Et comment mieux répondre aux préoccupations qui ont été exprimées par la population. Sur les questions de sécurité, on a noté par exemple également que les femmes demeurent celles qui sont les plus inquiètes par rapport aux questions de sécurité. Elles sont les plus vulnérables dans la sécurité générale qui couvre ces zones d'intervention. Et donc cela nous conforte dans l'idée de mettre plus l'accent sur les violences faites aux femmes et sur la protection des femmes dans ces zones sortant de conflit.
Oui, mais alors par rapport aux institutions chargées de la sécurité, la police nationale, les FARDC, la MONUSCO aussi.
Il ressort de l'étude une certaine insatisfaction, à la fois une insatisfaction, mais aussi une incompréhension du mandat de la MONUSCO. Alors, à part les zones, comme je l'ai dit, cette enquête s'est déroulée en novembre-décembre 2013. Donc, au bénéfice de la victoire des FARDC qui avait été enregistrée à l'époque sur les M23, dans le territoire de Masisi et de Rutshuru, on a noté que la population a montré sa satisfaction par rapport aux services fournis par les FARDC. Mais en dehors de ces zones qui étaient touchées par l'actualité du moment, le sentiment général est que on attend des FARDC effectivement qu'elles apportent la sécurité à la population, mais on estime que cette mission n'est pas rendue de manière satisfaisante. Et de la même manière, les services de la MONUSCO sont très peu compris et les populations ont du mal à voir l'impact de l'action de la MONUSCO sur le terrain.
Et par rapport à la police nationale?
Par rapport à la police nationale, des recommandations sont sorties de l'analyse des réponses qui ont été enregistrées. Les populations sont conscientes du faible niveau de rémunération de ces policiers et du faible niveau de formation également. Donc les populations sont très intéressées à ce que les programmes d'assistance auprès des forces de police soient beaucoup plus focalisés sur la formation des policiers et que du côté du gouvernement, les rémunérations soient effectives et suffisamment importantes pour éviter que les forces de police se livrent elles-mêmes à des actes de racket.
Alors, madame, à quoi vont servir toutes ces informations?
ces informations qui vont servir déjà, nous qui développons des programmes d'assistance au Congo, de mieux raffiner l'offre de services que nous prodiguons à l'ensemble des services étatiques, qu'ils soient de la justice, qu'ils soient des forces de police, qu'ils soient de l'armée. Ça va nous permettre également de mesurer la performance de nos programmes sur le terrain. Ça permet de mesurer l'efficacité des services publics et donc de renseigner sur la performance des politiques publiques. Ces données vont servir dans le dialogue politique entre la communauté internationale et le gouvernement congolais pour améliorer la réponse aux préoccupations de la population.
Quand vous dites nous, c'est le pays de la MONUSCO.
Nous, la MONUSCO, en termes de partenaire d'exécution, mais nous sommes soutenus dans cette initiative par la coopération canadienne, la coopération suédoise et la coopération américaine à travers USAID. Et nous espérons que d'autres partenaires se joignent à nous pour élargir l'envergure de ce projet.
Et après la présentation de ce rapport, quelle va être la suite, madame ?
La première phase était d'élaborer la base de données. C'est ce qui vient d'être fait, qui vient d'être présenté. Dans la deuxième phase, nous allons procéder à des sondages trimestriels qui vont permettre de valider, d'enrichir et d'améliorer la base de données existante et de voir les tendances par rapport à la mise en œuvre des différents programmes sur le terrain. Cette phase va durer sur une période de 2 ans. Et à l'issue donc de cette période de 2 ans, il y aura une phase d'élaboration d'une étude beaucoup plus globale qui va consolider l'ensemble des enseignements qui auront été collectés pendant toutes ces années de collecte d'informations et de traitement de cette information. Je voulais aussi indiquer que dans le cadre de ce projet, nous travaillons étroitement avec les universités des zones dans lesquelles les enquêtes sont effectuées. Ceci dans le cadre de la pérennisation de ce projet, car comme je vous l'indiquais, ce projet a une durée de 3 ans, mais l'ambition, c'est que cet exercice continue. Et donc, ce sont les départements des recherches au sein des universités qui vont continuer cet exercice, qui travaillent déjà avec l'opérateur technique qui a été retenu pour la mise en œuvre de ce projet, pour le transfert de compétences et qui vont, à la fin du projet, prendre la relève et continuer cet exercice de collecte de données.
Madame Nadia Tourki, merci.
Merci à vous.
Dans les nouvelles en bref, leadership féminin et prise en compte du genre dans les projets, c'est le thème de 2 ateliers organisés la semaine dernière à Kinshasa par la section genre du PNUD. Au cours du premier atelier, 26 participants, dont 18 femmes, ont réfléchi sur les stratégies à mettre en œuvre pour inciter les femmes au charisme, au travail en synergie et à l'influence positive dans la prise de décision. Le deuxième atelier, un atelier de renforcement des capacités sur le genre, a réuni des représentants des ministères impliqués dans la gestion des projets environnementaux. Il s'agit notamment des ministères des mines, des hydrocarbures, des affaires foncières et de l'agriculture. Et puis cette autre nouvelle, le PAM a lancé jeudi dernier à Kinshasa son projet de l'énergie verte dans ses installations. Il s'agit de remplacer l'énergie électrique produite par ces groupes électrogènes par l'énergie solaire, ce qui ferait gagner à l'organisation, selon Martin Olsen, représentant du PAM en RDC, 30 000 dollars américains par an à réinvestir dans l'action humanitaire. À Kinshasa, ce sont 12 panneaux solaires d'une puissance de 3 kilowatts qui fourniront de l'énergie aux entrepôts de Kingabwa. Les entrepôts de Goma, de Kalemi, de Bunia et de Bukavu sont aussi concernés par ce projet financé par l'agence suédoise de développement et Howard G. Buffett.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Des partenaires de santé ainsi que des organisations humanitaires internationales sont mobilisés avec le gouvernement afin de juguler la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la zone de santé de Boende. La MONUSCO n'est pas en reste, elle apporte un appui logistique à travers des points d'appui à Mbandaka, Boende et Lokolia. La mission de l'ONU entend construire un campement pour le personnel soignant et des tentes pour les malades. Pour en parler, le magazine des Nations Unies reçoit le docteur colonel Umaru Salisu. Il est directeur médical de la mission militaire de la MONUSCO et s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko. Suivez.
Docteur Umaru Salisu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Pierre.
Beaucoup de partenaires sont sensibilisés pour aider le gouvernement à maîtriser la maladie à virus Ebola et l'Équateur. Quel est l'apport de la MONUSCO, docteur?
Monsieur Jean-Pierre, donc, depuis la déclaration officielle de l'épidémie de l'Ebola par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le 24 août dernier, plusieurs structures internationales associées au gouvernement de la RDC œuvrent pour maîtriser la propagation de la maladie. Dans le cadre d'un plan d'action conjointe et la MONUSCO intervient à ce titre.
Et alors, il est prévu, selon l'OMS, la construction des tentes pour les malades et même d'un campement pour les personnels dans la zone des santé de Bouyindé. Que compte apporter la MONUSCO concrètement?
La MONUSCO a donc moyens matériels et techniques déjà présents sur le territoire de la République démocratique du Congo, a décidé de mettre en place un plan de travail qui porte sur la logistique particulièrement à Mbandaka, à Bouyindé et à Lokolia. Bouyindé, un camp de logistique avancé sera créé et à Lokolia, donc, il est prévu l'aménagement d'un hélipad pour permettre donc, le débarquement du matériel. C'est un site qui est un peu éloigné donc, du centre de traitement. Ceci va permettre donc la construction d'un camp de stationnement pour le personnel déployé sur Lokolia, donc tout le personnel qui prend en charge les malades.
Justement, vous parlez de ce personnel. Construire des tentes suppose la présence, bien sûr, du staff de la MONUSCO sur place. Quelles sont les mesures prises pour préserver ce personnel de toute contamination?
Si on a parlé de contamination, il n'en est pas le cas, parce que le camp, je vous ai souligné que le camp sera éloigné du centre de prise en charge. Et comme la maladie, comme on le connaît, elle ne se transmet pas par air, elle nécessite donc pour actualiser, la contamination se fait par contact direct avec le malade, avec la dépouille ou bien avec les déchets du malade, c'est-à-dire les selles, les urines, les crachats, le sang, ou bien au contact d'un animal mort donc de Ebola.
Mais docteur, tout de même, c'est dans la même zone de santé de Bouyindé où ça sera érigé les campements.
La MONUSCO a pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de contact entre la maladie, c'est-à-dire, parce que pour qu'il y ait la contamination, il faut qu'il y ait le contact direct, humain à humain.
Si je comprends bien, c'est la mesure prise, c'est l'éloignement.
C'est l'éloignement et la protection. Donc tout ce personnel qui va être utilisé là-bas sera bien pris en charge sur le plan protection, c'est-à-dire il va avoir le pays PPE, donc personnel protection equipment, seront dotés de ces équipements.
Docteur Oumar, tout à l'heure vous avez parlé de la logistique. La zone de Bouyindé, on le sait, caractérisée par son isolement, difficile d'accès donc. La MONUSCO va-t-elle mettre à sa disposition des avions ou peut-être aussi du personnel médical?
Beaucoup plus, vous avez insinué, beaucoup plus le transport. Ce qui concerne le transport, la structure internationale est attribuée à une structure qu'on appelle UNHS.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est une structure humanitarienne qui s'occupe du transport dans le cadre international des Nations Unies. Donc la MONUSCO toutefois reste disponible en cas de demande officielle.
Donc en d'autres termes, la MONUSCO est prête à accorder ses avions pour la logistique et pour le transport au niveau de Bouyindé, entre Bouyindé et Mbandaka, Mbandaka et Kinshasa?
Actuellement, la MONUSCO va mettre en place donc, les transports à partir de Mbandaka, Bouyindé et Lokolia, mais dans le cadre du transport de la logistique et du personnel qui va monter la logistique. C'est-à-dire, ceux qui vont faire les travaux sur le tente, les ingénieurs vont aller et ces ingénieurs-là vont être transportés. Cela n'empêche que, sur demande officielle, les mêmes avions peuvent transporter le personnel. Mais je vous signale qu'il y a une structure pour le transport du personnel soignant.
Ok, c'est bien. Parlons un peu de ces comités provinciaux de coordination qui est mis en place au niveau de Mbandaka pour la gestion de l'épidémie. Alors, est-ce que la MONUSCO fait partie de ces comités provinciaux?
Bien sûr que la MONUSCO fait partie de ce comité, mais pas directement. Parce que les règles de travail des Nations Unies sont telles que tant qu'il y a une représentation sur le plan médical, tant qu'il y a une représentation de l'OMS, toute structure des Nations Unies qui veut intervenir doit passer par l'OMS. Donc la MONUSCO actuellement, elle intervient, mais à travers l'OMS.
Docteur, une toute dernière question. Le ministre de la Santé a déclaré jeudi dernier dans une radio qu'il était vraiment optimiste et l'OMS estime que la RDC peut briser la chaîne de transmission dans les 45 jours. Est-ce que vous partagez cet optimisme, docteur?
Je suis vraiment tout à fait d'accord avec cette idée essentielle qui ressort donc de ce discours du ministre. N'oubliez pas que la RDC Congo est le premier pays, fait partie des premiers pays qui ont connu l'épidémie de l'Ebola. D'ailleurs, Ebola vient du nom d'un cours d'eau qui est situé non loin du lieu de la première épidémie en 1976. Et depuis lors, actuellement, nous sommes à la septième épidémie en RDC Congo. Et vous avez vu que l'État a bien pris les dispositions correctes qui vont à l'encontre de la dissémination de cette maladie. Vous avez vu que la première déclaration, déjà, il est interdit de chasser, un périmètre d'isolement a été bien défini et beaucoup d'engagement dans le sens de la limitation de l'expansion de la maladie. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir et vous voyez bien que le taux de nouveaux cas est vraiment rare. c'est vraiment rare, ça veut dire que vraiment ils maîtrisent la situation et on a l'espoir dans les 45 jours à venir de ne plus voir de cas.
Et c'est sur cette note d'espoir que nous terminons notre entretien. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions là le docteur colonel Omaru Salissou, il est directeur médical de la mission militaire de la MONUSCO. Docteur Omaru, je vous remercie.
Je vous remercie, M. Jean-Pierre. Bonne journée.
Et le système des Nations Unies a augmenté sa contribution à la suite de l'appel lancé par le gouvernement congolais pour lutter contre Ebola. Les Nations Unies s'engagent pour 1,2 million de dollars de plus, soit un total de 2 700 000 dollars américains, un financement octroyé à travers le Pool Fund. C'est un mécanisme de financement des besoins humanitaires géré par OCHA. Et maintenant, la nouvelle des provinces. À la veille de la rentrée scolaire, une ONG tire la sonnette d'alarme. Plus d'une centaine d'enfants sortis des groupes armés dans le territoire de Pweto, dans le sud-est du Katanga, n'ont toujours pas bénéficié de kits de réinsertion scolaire. Si cette situation perdure, redoute cette ONG, ces enfants courent le risque d'intégrer de nouveau les groupes armés. Expédie Mwamba Mubi pour les détails.
D'après l'ONG Libertas, 178 enfants de Pweto, soit 131 garçons et 47 filles, ont été sortis des groupes armés entre 2013 et 2014. Le président de cette ONG déplore toutefois le fait qu'une infime minorité a pu bénéficier de kits de réinsertion scolaire. Delphin Louembe précise que 24 enfants seulement, soit 19 garçons et 5 filles, ont reçu leur kit de la part de la Commission Justice et Paix du diocèse de Kalemie-Kirungu. C'est donc plus de 150 ex-enfants soldats qui attendent toujours de renouer avec l'école. Faute de quoi, prévient l'ONG de Pweto, ces enfants risquent de retourner dans les groupes armés. Aux dernières nouvelles, nous apprenons de la part de la Commission Justice et Paix du diocèse de Kalemie-Kirungu que celle-ci est prête à poursuivre son partenariat avec Libertas en ce qui concerne non seulement les enfants sortis des groupes armés, mais aussi les femmes victimes de violences sexuelles. Kalemi, Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Pourquoi le territoire de Nyiragongo n'a pas été choisi dans le projet îlot de stabilité? C'est la question posée par notre confrère Gabriel Wamenia de Radio Okapi Goma. Suivez la réponse de Martin Kobler, le chef de la MONUSCO.
Dans notre système, c'est le chef du bureau qui décide. Alors, nous avons décentralisation de la décision. C'est pourquoi ça serait très important de demander à Rétores ici pourquoi est-ce qu'il a choisi les autres endroits. Mais le principe doit être clair. Il faut rétablir l'autorité de l'État dans les territoires libérés. Alors, c'était après la chute du M23, c'était Rutshuru Kibancha. On a décidé, alors, on doit maintenant remplir le vide. On a un vide maintenant. Les M23 étaient là, alors tout était détruit. On avait un système de double taxation, mais avec les taxes, les M23 n'ont pas construit les écoles, ils n'ont pas construit les hôpitaux. L'administrateur territorial, il n'a pas eu de chaise dans son bureau. Hein? Alors, et c'est pourquoi on choisit les territoires qui sont libérés. Et puis, on va étendre. Ça n'exclut pas aussi dans le territoire de Nyiragongo. On a des besoins partout. Il faut commencer dans les endroits avec un projet pilote, et puis il faut étendre.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Alexandre Sommet, je suis né un certain 28 octobre, je suis Camerounais bien sûr, diplômé de l'année cosmique, ce qui fait de moi, sur le plan horoscopique, un scorpion. Je suis marié et père de 3 enfants, dont une fille qui a bientôt 15 ans et qui se trouve présentement aux États-Unis. Les 2 autres enfants et la famille se trouvent en Afrique du Sud. Je suis un détenteur d'un master degré en communication dans le domaine des relations internationales, diplômé de l'école de journalisme de l'université de Yaoundé. Je suis allé par la suite aux États-Unis en 1995, en 1991, autant pour moi, et je suis resté aux États-Unis jusqu'en 2001, quand les Nations Unies ont décidé de m'envoyer au Congo. La période que j'ai passée aux États-Unis a été particulièrement intéressante, où j'ai beaucoup appris, énormément alors, parce que de la période des années 90 jusqu'à l'an 2000, C'était une période où nous avons pu créer une télévision avec un groupe d'Africains, donc des Ivoiriens, des Sénégalais. Et entre cette université au Cameroun et l'université aux États-Unis, j'ai travaillé à Cameroun Tribune, qui est le journal national du Cameroun, pendant 3 années. Et c'est comme ça que j'ai rejoint pour la toute première fois en fin 1999 les Nations Unies et j'ai rejoint l'unité télévision à New York. Et c'est de l'unité télévision que, au cours d'un déjeuner, j'ai rencontré l'ancien directeur de la radio Capi ici, qui était en même temps le directeur de l'information, qui s'appelait David Smith, à New York, et qui m'a dit: j'ai besoin de ton expérience, j'ai besoin de ton expertise pour que tu nous rejoignes au Congo. C'est ainsi que j'arrive ici un certain 21 octobre 2001 pour venir lancer officiellement, ou du moins mettre en forme, ce qui tient lieu aujourd'hui de Radio Capi. Je suis le coordonnateur national des activités sociales d'Amazon. Ben, c'est d'abord des réunions et après des concepts opérationnels sur le plan de comment mettre la ligne stratégique du travail de la mission, écouter ce que la hiérarchie de la mission met en avant et réaligner la plupart des activités que nous devons mener au courant de la journée ou au courant de la semaine par rapport à cette action de leadership de la mission. Il faut également suivre un peu ce que les militaires font, pour les aider dans leur stratégie d'ensemble de conception d'une ligne des activités qui soit de nature à réhabiliter ou à rehausser le moral des militaires, mais surtout à gagner la confiance des populations sur le terrain. Au Congo, quand vous travaillez pour une mission de maintien de la paix, rarement vous avez le temps libre. Mais quand vous avez ce petit temps-là, je suis à la maison, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup la musique de Koffi Olomide que j'aime bien. Je suis un très grand fan de Koffi. Et je suis également de la soul music. J'ai l'impression que les deux rythmes, de mon point de vue, se ressemblent beaucoup. La rumba style Koffi Olomide se rejoint un peu, n'est-ce pas, à la soul music telle que connue à travers le monde. Donc moi, c'est le style de musique que j'aime bien et des musiciens congolais que j'aime bien. Je pratique le tennis parce que je suis à demi-clubs des Centre Laïs, donc je passe souvent le clair de mon temps quand je l'ai à jouer au tennis, soit au club Laïs ou à d'autres clubs où je canne. Bien sûr, le bon pondo congolais et le bon foufou, c'est un repas qui se rapproche beaucoup au repas camerounais et donc j'adore. Quand tu manges le pondo, tu as mangé un peu ce que nous appelons au Cameroun le bon ndolé. Donc le ndolé provient aussi des feuilles, autant que le pondo. Ben, déjà, j'approche la 50aine bientôt, et donc il est extrêmement important que je commence à visualiser ce que je veux faire dans l'avenir. Et à ce qui me concerne, je crois, je compte dans l'avenir aider les amis qui pensent déjà à lancer une télévision panafricaine du type de France 24. C'est l'idée que nous avons en tête. Nous sommes en train de réfléchir. Je crois que bientôt nous allons prendre la pause avec les Nations Unies pour pouvoir lancer ce projet. Mais il faut dire que les Nations Unies ont été, n'est-ce pas, une expérience particulièrement intéressante pour moi. Le respect du principe de l'intégrité et des droits des peuples était particulièrement intéressant pour moi. C'était quelque chose dont j'ai voulu faire partie. C'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint très vite les Nations Unies au début des années 2000 et j'y suis jusqu'à présent.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Notez ce rendez-vous dans vos carnets avec l'UNESCO. La journée internationale de l'alphabétisation, c'est ce lundi 8 septembre. Cette année, le thème sera « Alphabétisation et développement durable ». À cette occasion, un grand événement mondial aura lieu à Dhaka, où le gouvernement du Bangladesh organisera en coopération avec l'UNESCO la conférence internationale sur l'alphabétisation et l'éducation des filles et des femmes, fondement du développement durable, ainsi que la remise des prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO en soutien à l'initiative mondiale du secrétaire général des Nations Unies pour l'éducation pour tous. par ici que nous terminons cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce numéro a été coordonné par Jean-Pierre Elali Ikoko sous la supervision de Julien Nyamouni. Honoré Mistenga était au reportage et Willem Lungamba à la régie, Lydie Bettina à la présentation. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radiookapi.net. Excellente journée dominicale et à la semaine prochaine.